Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Alors, à nouveau, cette semaine, une revue de presse un tout petit peu plus condensée, un peu plus courte. Oui, donc je vous explique, hein, on s'est toujours tout dit, donc pour cause de soucis de planning, hein, que ce soit par rapport au boulot ou à la vie perso, je suis dans l'obligation cette semaine de bouleverser donc une nouvelle fois la structure de l'émission, tout du moins la structure telle que vous la connaissez depuis le début de cette saison 3 hein, qui a inauguré ce format hebdomadaire. Alors c'était soit je chamboule à nouveau, soit je ne mettais pas d'émission cette semaine et je préférais vraiment, malgré le peu de temps qui m'est imparti ce week-end, je préférais quand même vous livrer une émission donc qui sera plus courte, mais j'espère néanmoins qu'il vous plaira. Je vais vous dire un petit peu ce qui va se passer. Il va y avoir quelques news, donc une brochette de news un peu plus petite, hein, largement même plus petite que celle de la semaine dernière. Bon, en même temps, il n'y a pas eu non plus 36 news fracassantes cette semaine, donc j'ai vraiment fait le tri de ce qui me paraissait le plus primordial, j'ai envie de vous dire. Et on va avoir un seul sujet principal où je vais vous parler d'écologie et de jeux vidéo. Bon, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Les aléas de la vie font que c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais j'essaye d'être au rendez-vous chaque semaine afin de vous livrer quand même un podcast, ma foi, de qualité, je l'espère. Ce que je vous propose, c'est qu'on attaque donc là la petite brochette de news. The Last of Us Part 2 jouable à la PAX East. C'est cette info que nous offre sur un plateau d'argent Gameblog. D'ailleurs, petite parenthèse, alors Gameblog, je l'ai toujours dit, c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même des bonnes plumes dessus. Mais alors, pour y aller, c'est vraiment, vous avez l'impression d'avoir une sorte de faux dans la main et devoir couper des montagnes et des montagnes de pubs, de vidéos qui se déclenchent automatiquement. Enfin, c'est vraiment très compliqué, je trouve, d'avoir une lisibilité un tant soit peu correcte sur Gameblog. Alors, c'est pas la première fois que je vous le dis, mais c'est vraiment très très compliqué. Je trouve ça dommage parce que vraiment, l'écran est absolument catastrophique. Il y a de bons rédacteurs, donc à l'image de Thomas Pillon, qui nous dit donc que c'est par l'intermédiaire du PlayStation Blog que le prochain jeu de Naughty Dog tant attendu se rappelle à nos beaux souvenirs par l'intermédiaire de deux nouveaux visuels. Mais c'est pas ça vraiment qui nous intéresse là, en tout cas pour l'émission d'aujourd'hui, puisque Sony, donc à la PAX Est de Boston, donc du 27 février prochain au 1er mars, va mettre à disposition un niveau nommé Patrouille qui se déroule tout au début du jeu, qui sera composé d'une heure de gameplay et qui donnera un petit aperçu de ce qui nous attendra dans le jeu complet. Alors, vous faites ce que vous voulez, là pareil, je le dis souvent, mais quand vous attendez vraiment à fond un jeu, bon, moi The Last of Us Partout, c'est un des jeux que j'attends le plus, je ne vais voir aucun retour de ça, si je ne sais pas si sur cet événement, on aura beaucoup de vidéos qui vont popper avec des youtubeurs, des influenceurs, que sais-je encore, des journalistes, hein, tout simplement, mais voilà, moi je me réserve la surprise. En tout cas, vous voilà prévenus, je rappelle que The Last of Us Partout est toujours prévu le 29 mai 2020, bien sûr, exclusivement sur PlayStation 4. Je vous avais parlé la semaine dernière de GeForce Now, hein, le service donc de cloud gaming d'Nvidia. Et ben sachez que Activision Blizzard même, hein, retire tous ses jeux du service. Oui, c'est GamerGen.com qui nous donne l'info en nous expliquant qu'Activision donc retire ses jeux du service GeForce Now. Le site d'ailleurs qui relaie un message officiel de Nvidia que je vous cite. GeForce Now va passer à la vitesse supérieure. Nous avons travaillé avec des éditeurs pour mettre en place un catalogue solide de divers jeux PC. Cela signifie que nous ajoutons continuellement de nouvelles productions et que nous devons parfois en retirer. À sa demande, nous vous informons que les jeux d'Activision Blizzard seront retirés du service. Bien que cela soit regrettable, nous espérons travailler avec Activision Blizzard pour proposer de nouveaux ces jeux et d'autres titres à l'avenir. Alors je ne sais pas si vous avez basculé dans cette offre GeForce Now qui était en bêta pendant très longtemps et qui est maintenant officiellement disponible. Enfin bon, je vous renvoie à l'émission de la semaine dernière pour plus de détails. Alors je ne sais pas si c'est un coup dur, voir l'impact que ça va avoir sur le succès ou le non-succès de GeForce Now. On va suivre ça de très près. On va aller du côté de chez jeuxvideo.com pour deux news. Tout d'abord, Half-Life Alyx qui dévoile sa sortie. Vous savez, ce nouvel épisode d'Half-Life 100% conçu autour de la VR. La date de sortie est tombée et donc ce sera disponible dès le 23 mars prochain sur Steam. JV.com nous rappelle que, comme son nom l'indique, Half-Life Alyx comptera les différentes péripéties d'Alyx Vance, un personnage emblématique bien sûr du deuxième épisode. Cette dernière devra notamment faire face à un groupe d'extraterrestres sans foi ni loi répondant au doux nom de Le Cartel. mortel. Je rappelle bien que pour profiter du jeu en réalité virtuelle en VR, hein, il faut absolument posséder un casque compatible comme le Valve Index, le HTC Vive ou le Windows Mixed Reality ou encore un casque de la gamme Oculus. Et donc sur jeuxvideo.com toujours, on apprend qu'Anthem, oui, le jeu de BioWare, va totalement être repensé puisque BioWare a publié un communiqué cette semaine indiquant que ce travail, donc ce renouveau, était bien enclenché. Dans cette publication, nous dit jeuxvideo.com, qui a d'ailleurs fait crasher le site de BioWare, Casey Hudson confirme qu'Anthem subit actuellement une refonte à long terme et que celle-ci prendra bien évidemment du temps. Bon, ça on pouvait s'en douter. Au sein de ces mots, une phrase fait office d'aveu, nous dit le site, quant aux conditions dans lesquelles a été développé et est sorti le titre en début d'année 2019, je cite cette phrase, « Et pour le faire correctement, donc cette refonte, hein, nous ferons quelque chose que nous aimerions avoir plus fait, donner à une équipe le temps de tester et d'itérer en se concentrant d'abord sur le gameplay. » Dans le reste du message, le directeur général donc, du studio revient sur toute l'année écoulée, tout en admettant que le chantier est encore important. Donc Kazé nous dit, je cite, « L'équipe a travaillé dur pour améliorer la stabilité, les performances et la qualité de vie générale, tout en proposant 3 saisons de nouveaux contenus et fonctionnalités. Nous avons également entendu vos commentaires selon lesquels Anthem a besoin d'une expérience de loot plus satisfaisante, d'une meilleure progression à long terme et d'un jeu final plus satisfaisant. Nous reconnaissons donc qu'il reste encore un travail fondamental à faire pour exploiter pleinement le potentiel de l'expérience et cela nécessitera une réinvention plus substantielle qu'une mise à jour ou une extension. Nous allons réinventer la boucle de gameplay avec des objectifs clairs, des défis motivants et une progression, avec des récompenses plus significatives, etc., etc. Je vous mettrai le lien de toute façon de la news dans la description de l'émission. Bref, donc, une version 2.0 pour Anthem, en espérant que ça lui porte chance, comme certains jeux qui ont été comme ça rebootés, hein, je pense à FF14 notamment, c'est pas le seul, mais c'est l'exemple là qui me vient voilà, l'esprit là immédiatement, hein, que tout simplement, Anthem, entre la présentation et le résultat final, beaucoup de gens ont été déçus, au-delà de l'aspect visuel qui avait été quand même un peu dégradé. Moi j'ai envie de vous dire, c'est vrai que le gameplay d'Anthem... vraiment ne m'intéressait pas du tout, et surtout les retours qu'on a vus étaient quand même, enfin même faisaient un peu peur, c'est pas du tout ce que j'attends de ce type de jeu. Moi, vous mettez la beauté visuelle sur les consoles nouvelle génération, la beauté visuelle telle qu'elle avait été annoncée lors des premiers trailers, avec juste un délire bien action, avec un peu de loot bien fichu, un délire à la Iron Man comme ça, ça irait très bien je pense, mais bon, on va attendre de voir un petit peu ce qui va se passer de ce côté-là. Et enfin, pour parachever cette brochette de news, on va parler de Final Fantasy VII Remake qui s'offre un système de quêtes annexes. Oui, c'est Jarod qui nous dit ça sur Gamecult et qui nous dit qu'après la plus récente des bandes annonces hein, qu'on a pu voir, effectivement, on voit Red 13, Professeur Ojo, etc., etc., il y aura donc des systèmes de quêtes annexes, dont un nommé quête de mercenaire, qui permettra à Cloud, le héros, de trahir sa nature asociale. Et oui, effectivement, nous dit Gamecult, en apportant son aide aux habitants et aux marchands de Midgar. Récompenses étant évidemment prévues pour chaque service rempli. Donc vous allez avoir un menu qui va répertorier toutes ces demandes, etc. Bon, du grand classique, en espérant que c'est pas sur ce type de quête annexe, en espérant déjà qu'elle soit bien écrite, qu'elle soit fun, en espérant que c'est pas là-dessus qui compte vraiment gonfler la première partie donc de ce remake d'FF7 qui, je le rappelle, s'arrête à la sortie de Midgar. Alors il y a des exemples de quêtes annexes qu'on nous donne, je vais pas vous les dire parce que ça peut être spoilant, donc moi-même je les ai lus en diagonale. Voilà, c'est juste que la dernière bande-annonce du jeu, là récemment, ils ont mis aussi en ligne la nouvelle version de l'intro. Bon, ça met toujours des grosses claquettes dans le museau. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est les images de poussins chocobo qui sont un peu effrayantes. Ça fait un peu penser à Howard the Duck. Je sais pas, je dis ça aux plus vieux d'entre vous, mais c'est un petit peu bizarre, alors que tout le reste du design est pour moi absolument totalement réussi. Bon, on verra ça. Moi, c'est déjà préco, c'est un jeu que j'attends énormément, c'est un de ceux que j'attends le plus cette année avec The Last of Us Part 2 et quelques autres. Oui, ce début d'année est complètement foufou. Il y aura donc des quêtes annexes hein, dans FF7 Remake, on pouvait s'y attendre, mais là, vraiment, Square Enix communique là-dessus. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description de cette édition, et si vous avez envie un peu plus de creuser là-dessus, au risque de vous spoiler, eh ben, j'ai envie de vous dire, à vos risques et périls. Crise climatique, le jeu vidéo devient-il plus vert ? C'est un papier que j'ai trouvé sur franceculture.fr, un papier de Pierre Repère, et qui nous dit que de la récolte de ressources au sauvetage de la planète Terre, le jeu vidéo a toujours semblé être en prise directe avec notre environnement. À l'aune d'une crise climatique majeure, oui, c'est peu de le dire, comment s'empare-t-il, donc le jeu vidéo, des thématiques de protection de la nature ? Tout d'abord, le papier nous reparle de Final Fantasy VII. Et oui, souvenez-vous, en compagnie du groupe terroriste Avalanche, vous devez détruire des complexes industriels mettant à mal la planète. Un scénario tout droit inspiré des actions de l'association de protection animale L214, ou bien d'une frange radicalisée du groupe Extinction Rébellion. Rien de tout ça, il s'agit ni plus ni moins des premières heures de Final Fantasy VII. On y incarnait alors Clad dans le papier, mais... Cloud, vous le savez, un mercenaire engagé par un groupe d'éco-terroristes pour mettre à mal la Shinra, une corporation siphonnant l'énergie de la planète, nommée rien moins que Gaïa. Donc ça, il est bon de le rappeler, même si les fans de Final Fantasy qui m'écoutent ne le savent que trop bien, mais le papier nous dit qu'incarner un éco-terroriste pour sauver la planète semble être dans l'air du temps, et pourtant, ce Final Fantasy VII, sorti en 97 sur PlayStation, affiche donc plus de 20 ans d'existence au compteur, avec bien sûr le remake, ce papier ne manque pas de le rappeler, qui arrive très bientôt. Preuve que les fables écologiques, nous dit le journaliste, ont depuis longtemps été utilisées comme recours narratif dans les jeux vidéo. La question environnementale a toujours été présente dans les jeux vidéo, rappelle Esteban Green, doctorant chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lorraine et rédacteur du site Les Chroniques Vidéoludiques. Il nous dit, même si elle n'a pas été tout le temps formalisée avec de vrais enjeux environnementaux. Dans les années 90, nous dit-il, on avait déjà des jeux vidéo comme le premier SimCity où la façon dont le joueur ou la joueuse appréhendait l'environnement crée un système de causes et de conséquences sur ce même environnement. Après la démarche véritablement réflexive, poursuit-il, l'émergence de discours clairement formalisés pro-environnementaux, pro-soins de la nature, pro-écologie, etc. Là, on remonte plus sur la fin des années 90, début des années 2000. De son côté, Alenda Chang, professeur associé en cinéma et médias à l'université de Santa Barbara et autrice du livre Playing Nature, Ecology in Video Games, nous dit « Les préoccupations environnementales sont présentes dans les jeux vidéo depuis le tout début, ou presque. Même si nous ne qualifierons pas ces jeux d'environnementaux, elle cite quand même SimEarth 90, Populous 89, Balance of the Planet en 90, ou même du jeu d'arcade Frogger sorti en 80, qui, nous dit Alenda Chang, nous apprenait déjà à être de meilleurs voisins pour les autres espèces. Même si pour Frogger, j'ai quand même un gros doute sur cette volonté, c'est juste que c'était très fun et que ça incarnait bien le gameplay que voulait mettre en place le jeu. Voilà, ça c'est ma petite opinion personnelle. Bref, le journaliste de France Culture nous dit que les premiers, les jeux de simulation, incitent à prendre en compte des dynamiques propres à l'environnement qui nous entoure, notamment parce que leurs systèmes de jeu sont basés sur la gestion des ressources. Un propos que nuance Thomas Versavo, un vidéaste de la chaîne Game Spectrum, on en a déjà parlé de cette excellente chaîne, qui nous dit « Le rapport à l'écologie est complexe parce que dans les jeux, il y a naturellement un rapport de colonisation et d'hypercapitalisation. Le but est d'explorer un territoire, de récupérer des ressources, etc. Des jeux où il faut gérer les ressources, il y en a toujours eu, mais des jeux où il faut gérer les ressources de l'environnement pour construire quelque chose où le but n'est pas simplement de devenir le plus gros, c'est également plus rare. » Le papier nous dit que le jeu vidéo simplifie souvent à l'excès les rapports entre les humains et la nature. Au point, nous dit Esteban Green, de toujours faire apparaître la nature comme volontaire, comme implicitement d'accord pour être accaparée par l'être humain. Esteban Green poursuit, ce qui est intéressant, c'est que ça reflète la vision que nous-mêmes avons, particulièrement dans les sociétés occidentales, de la nature qui est au service de l'humain. La nature est représentée de manière totalement lisse et sans aucune violence. Quand on veut manger de la viande, il n'y a aucune violence qui est faite aux animaux alors qu'en réalité c'est d'une violence extrême. Quand on coupe des arbres, c'est d'une façon assez burlesque alors qu'en réalité c'est une violence qui est faite sur un territoire et sur des espèces qui profitent de l'arbre, etc., etc. En fait, ça, c'est révélateur de la façon dont nous-mêmes, en tant que société, on se représente la nature comme étant au service de l'homme, de l'humain. Elle est en tout cas au service du joueur qui est au centre de tout. Et ça, c'est révélateur d'une vision très ethno-centrée. C'est un propos d'Esteban Green qui est très intéressant, même s'il y a quelques jeux qui essayent de changer la donne là-dessus. Effectivement, 90% des jeux où vous avez de la collecte de ressources s'inscrivent totalement dans cette grille de lecture-là. C'est mon avis. Le journaliste de France Culture donc nous dit que quand la nature n'est pas au service de l'homme, elle est simplement un prétexte narratif, qu'il s'agisse donc de sauver la planète comme dans FF7, ou plus simplement de sauver la nature ou des animaux. Des thématiques de protection de la nature ainsi traversent l'histoire du jeu vidéo, qu'elle soit centrale ou bien en filigrane, dans leur trame narrative. Le papier prend pour exemple Sonic the Hedgehog, et oui, effectivement, rappelez-vous quand même que le docteur Eggman enfermait des gentils petits animaux dans le fameux Flicky, le zozio bleu bleu de Sega, ça c'est moi qui vous rajoute un petit trivia comme ça, qui est très connu par les fans, mais enfin voilà, hop, c'est gratos, c'est la maison qui offre, bref, rappelez-vous, Dr. Robotnik, donc Eggman, qui enfermait les animaux et il fallait les sauver. C'est vrai que Sonic, avec ce petit côté écolo déjà à l'époque, dont s'était fait l'écho la presse, je sais pas si vous lisiez les magazines de l'époque, mais ça revenait très souvent. Esteban Green nous dit, je le cite à nouveau, « Nous connaissons tous maintenant la rhétorique du déclin de l'environnement et le battement de tambour d'une planète en danger, ce que les savants aiment appeler des récits déclinistes. Et les jeux qui utilisent ce récit, comme The Legend of Zelda Majora's Mask, créent automatiquement l'urgence de l'intrigue. En fait, j'ai un chapitre entier dans mon livre sur l'effondrement et la popularité éternelle des paramètres de jeux post-apocalyptiques et l'intérêt croissant pour les jeux permades, hein, ces jeux donc où vous n'avez qu'une seule chance et perdez tout progrès quand vous êtes mort. » Donc Esteban Green nous dit « Jouer de manière destructrice n'est pas nécessairement mauvais en termes environnementaux, car il nous apprend quelque chose sur la façon dont les systèmes sont fragiles ou peuvent se briser lorsqu'ils sont poussés trop loin. » L'article de France Culture poursuit en nous disant que dans la lignée des jeux post-apo, ont également émergé ce qu'on appelle les jeux de survie, souvent développés par des studios indépendants et qui proposent d'incarner un personnage isolé dont l'objectif est de parvenir à survivre dans un monde hostile en récoltant des ressources afin de créer les outils de sa propre survie. Des jeux comme The Forest ou Don't Starve imposent aux joueurs de réfléchir directement à l'environnement qui l'entoure pour sauver sa peau. Thomas de la chaîne Game Spectrum nous dit « Ces jeux sont inspirés des théories survivalistes, qui sont un peu à la mode aujourd'hui et qui sont notamment entendus dans les discours effondristes où il faut s'organiser pour survivre. » L'article nous dit ensuite que pour survivre face à la nature, il convient tout d'abord de l'observer. Donc là, on prend l'exemple du jeu vidéo Subnautica, qui se veut ainsi contemplatif et consiste pour l'essentiel à explorer un monde inconnu tout en découvrant les écosystèmes qui le composent. De son côté, le jeu vidéo Grow Home propose d'incarner un petit robot dont le seul objectif est d'explorer des mondes végétaux afin de trouver une plante susceptible de fournir de l'oxygène. Et donc le papier en vient aux jeux à visée pédagogique, à temps assuré, nous expliquons par les Serious Games. Des thématiques donc écologiques se sont retrouvées au centre de nombreux jeux vidéo grâce à l'explosion de la scène vidéoludique indé. C'est ce que rappelle Esteban Green, qui nous dit qu'entre 2000 et 2010, les plateformes comme Steam, etc. donc explosent, et donc on a une profusion de jeux qui apparaissent et qui vont permettre à certains discours d'être visibles. Il nous dit qu'on passe d'une situation où il y avait très peu de producteurs à une situation où il y a une infinité de personnes qui produisent des jeux avec des discours variés sur les questions environnementales. L'expérience des jeux vidéo indépendants est, de manière assez typique, nous dit-il, relativement courte, très focalisée sur une direction, qu'elle soit émotionnelle ou narrative. Sur une expérience de 5 heures, on va avoir le temps de faire émerger un discours qui est, par exemple, très porté sur l'environnement. Ces discours vont être aussi intégrés aux jeux AAA, mais ils sont noyés dans la profusion de contenu à l'expérience même qui s'étale souvent entre 50 et 80 heures de jeu pour les AAA les plus longs. Pierre Repère, donc de France Culture, nous dit que le jeu vidéo indépendant Echo, par exemple, sorti en 2018, propose aux joueurs de travailler de concert pour empêcher une météorite de s'abattre sur leur planète. Il nous dit aussi que certains blockbusters du jeu vidéo, donc les fameux AAA, n'ont pas hésité depuis à s'approprier les enjeux climatiques, comme Civilization 5 qui proposait aux joueurs dans son extension Gathering Storm de prendre en compte les émissions de CO2 pour limiter les catastrophes naturelles pouvant impacter le développement de sa propre civilisation. Aux grandes dames de certains joueurs qui décèlent dans cette possibilité, je cite, un délire écologique polluant jusqu'au jeu vidéo. Donc ça, il y avait toujours une frange de gamers assez virulente là-dessus. Bref, le journaliste poursuit en nous disant que l'imminence de la crise climatique ne peut que se refléter dans les jeux vidéo qui affichent fatalement des enjeux de plus en plus sombres. Esteban Green donc intervient à nouveau en nous expliquant, je le cite, que les jeux vidéo ne positionnent plus la destruction dans l'environnement comme le résultat d'un antagoniste. Ce ne sont plus les méchants qui détruisent le monde contre les gentils, nous sommes devenus la cause de la destruction. On change de paradigme, autant en termes narratifs qu'en termes de contexte et de lore. Cette ambiance et cette atmosphère un peu contemporaine expliquent pourquoi dans nos productions artistiques, nous sommes dans une perspective peut-être un peu plus pessimiste que les œuvres qui sont sorties dans les années 90 et 80. Aleda Chang, elle, rebondit en nous disant « Il faut s'attendre à ce que quelque chose d'aussi important et inquiétant que le changement climatique se retrouve dans les jeux comme avec tout autre médium artistique ou culturel. » Elle poursuit « Si vous êtes déjà inquiet du changement climatique dans des conditions météorologiques extrêmes, les jeux vidéo ne sont pas nécessaires pour vous convaincre. Mais beaucoup de gens sont repoussés par les messages écologistes, que ce soit parce qu'ils font vous sentir coupable, effrayé ou impuissant ou parce que ces problèmes semblent très éloignés de la vie et des besoins quotidiens. Les jeux vidéo font partie de la vie quotidienne de plus d'un milliard de personnes dans le monde. Ils ont le pouvoir de dramatiser les conséquences environnementales et les impacts des joueurs. Ils peuvent nous aider à spéculer sur l'avenir utopique, dystopique ou quelque part entre les deux. Et ils exigent également que nous fassions quelque chose, sinon rien ne se passe. Soyons clairs, nous dit-elle, jouer à un jeu ne sauvera pas la planète, mais cela pourrait nous aider à voir la planète comme digne d'être sauvée. Et le journaliste de France Culture, donc là on est vers la fin du dossier, paradoxalement, il nous dit que si les jeux vidéo adoptent des discours plus écolos au sein de leur production, l'industrie vidéoludique semble être imperméable aux enjeux environnementaux. Alors ça, c'est un sujet dont on a souvent parlé dans l'émission. Thomas Versavou de la chaîne Game Spectrum, pardon, nous dit « L'industrie du jeu vidéo dépend d'une industrie très polluante qui est celle de l'informatique. Quand on regarde l'E3, le salon principal de jeux vidéo, qui montre la tendance dans l'industrie, c'est chaque fois la course à la console la plus puissante. Le jeu vidéo, c'est un peu l'outil qui vend le fantasme hyper technologique en permanence et qui ne s'interroge pas du tout sur le fait qu'on vit une crise climatique énorme. Quand on va à l'E3, on a l'impression que c'est un autre monde dans lequel ces problématiques n'existent pas. » Esteban Green, quant à lui, nous dit « Cette industrie ne se pose pas de questions et en général met les pieds dans le plat en ce qui concerne des nouvelles technologies complètement démentielles. » Et là, on peut reprendre l'exemple de Stadia, bien évidemment. D'ailleurs, je vous avais parlé la semaine dernière de ces gars qui commençaient à mettre en place des packaging écolo. Et on a souvent aussi parlé dans l'émission des répercussions sur l'écologie que peuvent avoir ces énormes serveurs, le cloud gaming, etc. C'est un sujet qui revient souvent et à juste titre. Enfin, pour terminer ce bon papier de Pierre Repère, Alenda Chang nous dit ceci « L'industrie du jeu vidéo est en effet d'ores et déjà en retard à plusieurs niveaux, que ce soit en termes, je cite, de protection des travailleurs, d'écologisation de leur chaîne d'approvisionnement et de réflexion au-delà du matériel next-gen pour tous les déchets électroniques produits et l'énergie consommée par le matériel de jeu et la connectivité. Il y a des années, nous dit-elle, lorsque Greenpeace a commencé à évaluer les fabricants de jeux vidéo, ces derniers se sont tous retrouvés en bas de classement et Nintendo était même en dernière position. » Voilà donc ce papier sur France Culture qui est très intéressant. J'ai sauté quelques citations exprès puisque le papier est très très long. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la description de l'émission. Et je pense qu'on s'achemine vers la fin de l'émission, bien sûr. Et voilà, c'est terminé pour cette semaine. J'espère que cette édition un petit peu amoindrie vous a quand même donné satisfaction. J'aimerais remercier les tipeurs, parce que vous savez, vous pouvez m'aider, me soutenir via Tipeee ou Patreon. Donc je remercie encore Gontran, le seul et unique patron pour l'instant. Merci à toi Gontran. J'aimerais remercier donc les tipeurs. J'aimerais remercier Bertrand Amar, coucou Bertrand, Crocodine, Neo Calimero, Pipo Letsu, ce cher Mopral, Siwi Didjou, Electrotactics, Tophobie, Fabien, Yvan Le Pierrot, Machatruc76, Garan, HXC, Lina Nounette, Salut Lina, Pikachu, HL9, Nicolas, Yvan Vanifraise, X Nili, Carnoct, Melkioc, Lutherian, Aza, Slocoanet, Evolix, JP Madère et l'incontournable Monsieur A. Merci à toutes et tous. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Partagez un maximum, c'est important. Je vous souhaite panache et robustesse pour la semaine qui arrive. Et je vous fais un gros béco. Et je vous dis à tantôt. Allez, bye bye.